Parole d'auteur. Parole d'auteur, une émission de Anne Lasserre.
Dans les nourritures terrestres, André Gide écrit: Nathanaël, que l'importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée. Le journaliste et écrivain Christian Bernadac, qui est né, on peut le dire en passant, à Tarascon-sur-Ariège, lui répond: Nathanaël, que la beauté soit de ton regard, non de la chose regardée. Si je cite André Gide et Christian Bernadac, c'est parce que ces deux phrases s'appliquent au regard que l'invité d'aujourd'hui porte sur la Grèce.
Bonjour.
Françoise Tignol-Blanc, bonjour.
Bonjour Anne.
Avec vous, c'est toute la Grèce qui entre dans le studio, Françoise.
Oui.
Puisqu'après avoir écrit « Les chemins d'Ithéa », vous avez publié « La déchirure d'Argos ». Mais la question qui me brûle les lèvres avant tout autre, c'est d'où vous vient ce profond attrait pour la Grèce? Est-ce parce que c'est une terre nourrie de rêves et de légendes, comme vous l'écrivez dans la préface? Est-ce parce que vous avez enseigné pendant des années le latin et le grec?
Oui. Alors je vais essayer de parler un peu de moi, ce n'est pas toujours facile. Je pense que cet attrait pour la Grèce, surtout pour le grec, la langue grecque, est venu un peu comme un héritage dans la famille. Mon père, qui adorait son propre père, mort très jeune, avait fait du grec et du latin. Et mon père, n'ayant pas pu faire ce genre d'études, s'était promis, s'il avait des filles ou des garçons, qu'il ferait des études de lettres classiques. Et c'est ce qui nous est arrivé, donc, à ma sœur et à moi, puisque j'ai une sœur jumelle qui écrit elle aussi. Et donc, cet amour du grec est devenu comme un joyau, comme un bijou qu'on nous a donné en sixième. À l'époque, ça se faisait dès la sixième. Et en quatrième, donc, un excellent professeur au lycée Michelet de Montauban, Madame Bess, que j'ai le plaisir de citer ici, qui nous a donné cette passion et qui nous a fait rentrer dans cette civilisation qui est finalement notre civilisation, puisque j'ai retrouvé là toutes nos racines, à travers les auteurs, la philosophie, l'art oratoire, la comédie, la tragédie, surtout la tragédie qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Puis j'ai enseigné, après les études de lettres classiques, dans plusieurs lycées.
Et ce qui est amusant, c'est que votre sœur jumelle... Oui. A été aussi professeur de latin grec
aussi, la même passion, au même instant. Je pense que les rencontres avec certains professeurs nous ont beaucoup marqués, en faculté aussi à Toulouse, à la rue Lottman, nous avions d'excellents professeurs. On ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? C'était comme un chemin qu'on nous avait donné et on a continué ce chemin, en essayant de le faire partager à nos élèves chaque année, à travers un voyage, un bus, plus bateau. Bon, on a tout fait pour partager, parce qu'on dit souvent que le grec, c'est pour l'élite. Je ne pense pas. Je pense que tout être humain a droit à cette culture, à cette richesse, puisque chaque mot que nous disons aujourd'hui, chaque parole, l'étymologie vient du grec et toutes les racines sont là. Donc, dire que c'est que pour l'élite, je refuse. Donc, moi, j'ai tout fait pour le faire partager au maximum de mes élèves.
Et je crois que vous y êtes parvenu. Donc, après les chemins d'Ithéa, votre ouvrage qui a été publié par les éditions Lucane, votre dernier ouvrage porte un très très beau titre, La déchirure d'Argos. Alors, Françoise Tignol-Blanc, pourquoi ce titre?
Bon, alors j'ai plusieurs choses à dire ici. Argos, pour moi, c'est un tout petit... Dans l'Antiquité, c'était un tout petit village, tout près de Mycène, dans le Péloponnèse, avec une immense citadelle d'où on pouvait apercevoir la mer, puisqu'à l'époque, la mer était beaucoup plus près. C'est de là qu'est partie la fameuse guerre de Troie, c'est de là que sont partis les bateaux. Donc, Argos, c'est un paysage, dont on l'appelle l'Argolide, la région s'appelle l'Argolide, nord-est du Péloponnèse. C'est une région très douce de collines au bord du golfe de Corinthe, avec des citronniers, des orangers, des oliviers. Et le mot déchirure, c'est un peu comme si tout d'un coup ce paysage qui est soyeux comme un tissu était brisé par, justement, je le dis dans mon livre, je me suis inspirée d'événements qui ont vraiment existé, un séisme bien sûr, en Grèce il y en a souvent hélas des séismes, on se rend compte que tout peut basculer dans la même journée. Et puis aussi l'histoire d'un avion, un petit Boeing qui est venant de Chypre, s'est écrasé sur la terre d'Argos. Et c'est comme une fêlure, une cassure, mais j'ai préféré le mot déchirure parce que c'est un peu comme si on déchirait un tissu qui avait tout pour nous protéger et tout d'un coup, on n'est plus protégé. C'est l'impression qu'on a perdu tous ses repères et que la vie peut-être briser en un seul instant.
Et votre titre, donc, Françoise, porte déjà en lui la force de votre style. Moi, j'admire beaucoup votre écriture. C'est une écriture poétique. Elle est composée de paragraphes très courts. Et elle a la grâce, la force, la magie des textes anciens. Alors moi, je voulais vous demander si c'est à force d'enseigner les textes grecs que l'on se met à écrire ainsi.
Je ne pense pas. Bien sûr, ça aide. Je crois que peut-être moi-même, je ne suis pas capable de m'en rendre compte. Les auteurs qui m'ont marqué, c'est bien sûr Homère, surtout dans l'Iliade. Je n'aime pas trop l'Odyssée, je préfère l'Iliade, avec la mort d'Hector, la mort de Patrocle, les rites funéraires, les Grecs qui apparaissent un peu comme des sauvages, finalement, face aux Troyens. J'aime bien ces descriptions de la mer par Homère, j'aime bien. Mais j'ai adoré Euripide, dans les Troyennes justement, où ces femmes prises en captivité par les Grecs vont essayer de faire leur vie comme captives en Grèce. J'ai adoré tous ces auteurs, c'est vrai qu'ils m'ont bercée. Mais je peux dire aussi que, étant adulte, j'ai beaucoup aimé aussi les poètes surréalistes. Le choc des images, voilà. Ce que j'aime, c'est le choc des images, des mots qui apparemment n'ont rien à faire à côté l'un de l'autre, mais qui tout d'un coup provoque comme un court-circuit qui fait naître une idée. C'est ce que j'ai aimé. Et souvent, j'ai pratiqué moi-même l'écriture automatique. J'adore cet exercice. J'essayais de le faire aussi avec mes élèves. Laisser venir les mots, on ne sait pas pourquoi, mais ils viennent. Et tout d'un coup, on se rend compte que tel mot à côté de tel autre fait naître une idée à laquelle on n'avait même pas pensé.
Voilà. Ou une image.
Ou une image, voilà. Oui, voilà.
Oui. Alors je crois, Françoise, que vous avez choisi justement, que vous nous avez demandé de faire passer une musique, que nous écoutions une musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et les raisons pour lesquelles vous souhaitiez qu'on passe ce morceau de musique maintenant?
Oui, j'ai choisi une musique de Mikis Theodorakis, chantée par Maria Farantouri. C'est une femme très célèbre en Grèce qui a chanter tous les textes pratiquement de Mikis Theodorakis. Mais le texte que j'ai choisi, Marina, Marina, c'est un texte très nostalgique, très doux, très lancinant, un peu comme l'âme grecque. Pour moi, les Grecs ne sont pas révoltés comme nous le sommes en France. Ils acceptent les choses, ils acceptent. Et ils sont, comment dire, ils trouvent toujours dans la vie simple, la nature, le paysage qu'ils ont sous les yeux, des raisons d'espérer. Ils sont généreux, accueillants. Et pour les briser totalement, je pense que personne n'y arrivera. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour qu'il reste les mots sur les paysages que j'aime. Il reste des images, des douces images, pour ne pas que l'absurdité des choses vienne briser ce paradis, parce que pour moi, c'est ma terre maintenant. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le premier voyage en Grèce que nous avons fait, ma sœur et moi, nous sommes partis juste après les études de lettres classiques. Nous sommes partis donc en Grèce, on avait 22 ans, premier voyage. Et on partit en groupe avec un groupe Athéna, qui existe toujours d'ailleurs, l'association universitaire Athéna. Et dès que le bateau est arrivé à Igoumenitsa et qu'on a roulé un petit peu avec le bus sur la terre grecque, le bus s'est arrêté près d'un petit oranger, je pense. On s'est éclipsé loin du bus, toutes les deux, avec ce besoin de pleurer. J'ai pleuré comme si, mais à chaudes larmes, comme si tout d'un coup, j'arrivais enfin sur ma terre. C'était la terre que j'ai choisie, la terre dont j'étais imprégnée à travers tous les auteurs qu'on avait étudiés depuis la sixième. Et c'est vrai que j'ai pleuré. Et depuis, ça ne m'a, C'est mon deuxième pays, c'est ma terre. Je ne peux pas dire autrement, c'est ma terre.
C'est un très beau témoignage et c'est une des raisons pour lesquelles nous allons entendre Marina, Marina.
Parole d'auteur, Anne Lasserre.
Françoise, donc nous avons entendu Marina, Marina, pour créer l'atmosphère, enfin pour bien faire comprendre l'atmosphère de votre livre. Et je pense qu'il serait intéressant que vous nous lisiez effectivement là aussi le quelques passages et notamment le début, l'introduction de votre ouvrage.
La terre a tremblé cet après-midi, quelque part en Grèce. Et le vieux monde a crié, juste quelques minutes. Un vent fou s'est levé, puis le silence, à nouveau, a englouti la sourde révolte de la terre. Les entrailles rougies s'assoupissent ce soir, et quelques oiseaux s'égosillent dans les lauriers, au pied des murailles de la citadelle. Au même instant, un avion fou venant de Chypre a explosé en plein ciel, et sept corps ont jailli de la carlingue, aspirés par le vide. Ces sept corps, mutilés, reposent ici, en ces premiers jours d'avril, comme une déchirure, dans cette douce campagne du Péloponnèse. Ce soir, tous les habitants du village sont sortis sur les portes, et les terrasses modestes des cafés Néon grouillent de conversations inquiètes. Ce soir, ils pleurent sur Argos, des larmes d'incompréhension. La vie paisible s'est figée. C'est comme si les dieux avaient bougé et que soudain, l'on n'ose même plus respirer. On avance à pas mesurés. Le drame qui s'est noué sous un ciel bleu à devenir fou est un carnage sans nom, gratuit. Et le peuple grec, si sage, si modéré, n'a pas l'esprit assez avili pour accepter l'absurde. Sur cette terre où les heures comptent double par leur richesse et leur couleur, sur ce sol mouillé de larmes, de lumière et tout ruisselant d'écume bleue, l'absurde a fait irruption, point virgule sanglant qui tache les ruelles calmes où il faisait si bon hier se promener. Le temps s'est arrêté. Un mûrier platane agite mollement ses premières feuilles sur la terrasse du vieux Giurgos et Gerasimos, son fils, apporte deux chaises de plus pour la veillée. Les enfants écoutent la terre. Ils voudraient que le sol à nouveau se mette à parler, car cet après-midi ce fut si court qu'on a eu du mal à en prendre conscience. Le temps d'un vertige, d'un fugace malaise, le temps d'entendre les chèvres apeurées bégueter plus fort que d'habitude, le temps de voir les mulets remonter plus vite le sentier et de sentir ce souffle puissant du vent sur le visage. C'était déjà fini. Tout s'était tu, comme dans un rêve. Mais l'âne a continué à braire longtemps, et les vieilles femmes du village sont restées figées sur les portes, avec des éclaboussures d'angoisse au fond des yeux.
Et alors oui, Françoise, donc, un séisme bouleverse cette terre grecque, et un avion s'écrase aussi sur cette terre. Alors l'absurde fait soudain irruption. Ce n'est pas moi qui le suggère, c'est vous qui l'écrivez. Et si le monde, pas seulement le monde grec, mais l'univers tout entier, devenait absurde, hein, se demande le vieux Giurgos. Alors j'aimerais vous demander, si on parle de l'absurde au sens où Camus l'entend dans L'étranger ou dans le mythe de Sisyphe, ou si l'absurde est un non-sens né du divorce entre l'homme et le monde pour vous?
Oui. J'aime beaucoup Camus. J'ai été marquée d'ailleurs par deux œuvres qui sont moins connues, enfin moins connues, moins mises en valeur peut-être que La Peste ou L'étranger. C'est Noces à Tipaza et L'été à Alger. Deux petits recueils qui m'ont marquée pour la vie puisqu'il y a beaucoup de lumière chez Camus. L'absurde de Camus n'est pas le mien. On dit couramment que Camus était athée. Je ne suis pas athée. On dit que Camus était athée alors que personnellement, quand je relis Noces à Tipaza, j'ai l'impression qu'au milieu des ruines de Tipaza, ils cherchent aussi les dieux. Enfin, ça, c'est un autre problème. Personnellement, je suis croyante. Je suis croyante et cette foi, je l'ai perdue à une époque très précise, un certain 18 juillet, lors de la perte de mon grand-père. Ma sœur et moi, nous étions partis en voiture. Il est mort subitement. Il s'est garé sur le bord de la route et il est mort subitement. L'absurde est arrivé dans ma vie alors que nous avions tout pour être heureux. Cette cassure, cette déchirure, je l'ai reçue aussi. Donc, pour moi, l'absurde, c'est le fait que tout d'un coup, tout puisse basculer. Et non seulement la nature fait basculer les choses, puisque la mort, c'est la nature, mais je ne tolère pas, je n'accepte pas le terrorisme, je n'accepte pas que tout d'un coup, tous ces berceaux de lumière, comme la Tunisie, l'Italie, la Grèce, bon, soient brisés par des êtres qui jouent à détruire ce que l'homme a construit. Pour moi, c'est la richesse de la vie, c'est toutes des générations qui se sont succédées, qui nous ont transmis quelque chose. Et le vieux Giurgos le dit à un moment donné, qu'il n'a jamais eu peur de mourir parce que il savait que même en mourant, il transmettrait à ses enfants et ses petits-enfants tout ce qu'il a aimé, tout ce qui en fait ses repères, les champs d'olivier, les champs, la mer turquoise le soir, la mer violette après la mer couleur de vin, comme disait Homère, quand il y a eu une grosse tempête et que le sable remonte dans le turquoise de l'eau. Tout cela, je voudrais le garder et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit surtout pour qu'à travers les images reste cette beauté éphémère peut-être, mais qui nous aide à vivre.
Oui, absurde aussi, Françoise, parce que les habitudes ne sont plus de mise, parce qu'il y a quand même une rupture entre la beauté des paysages, la sérénité des lieux et les événements. Hein, ce tremblement de terre et cet acte terroriste. Et vous écrivez une très belle phrase qui m'a beaucoup marquée. Le jour naît, pur et lumineux, sur un monde qui a peur.
Voilà. Oui. Je voudrais lire peut-être un autre passage.
On vous écoute, voilà. Oui.
Depuis que les hommes existent, s'il est un pays où le moindre caillou, le moindre feuillage, le moindre visage est un sens, c'est ici. Les mots même semblent y avoir été inventés, les mots de sagesse et de raison, ces mots sources où s'abreuvent depuis des siècles de générations. Ici, le noir de l'âne qui broute sous le vert des oliviers estompe doucement le bleu violent de l'horizon, où se découpent, immaculées, les taches blanches des maisons. C'est ainsi que cela a été distribué, pour que l'homme apprenne à aimer la vie qu'on lui a donnée. Des milliers de chemins glissent vers les autels, s'éclipsent au pied des théâtres, contournent les cierges laiteux et dorés des colonnes des temples. Se pourrait-il qu'un jour tout cela existe pour rien? Se pourrait-il qu'un jour la terre glisse vers le néant, à la fois si proche et si tangible ce soir où le Boeing écartelé gît dans la campagne d'Argos, ce soir où les entrailles du globe ont grondé et où l'on sent que tout peut basculer.
Effectivement, on sent très bien dans votre ouvrage que tout peut basculer et que les personnages en ont conscience, notamment ce vieux Giurgos que vous avez évoqué. Et est-ce que vous pouvez nous répéter ce que vous m'avez dit hors antenne concernant l'origine de ce prénom?
Oui, Giurgos, c'est prénom qui se donne couramment en Grèce, c'est notre Georges à nous, c'est-à-dire « gai » en grec, comme géographie, géologie, c'est la terre. Et « urgein », c'est le verbe qui veut dire « travailler ». C'est celui, Georges, c'est celui, Giurgos, qui travaille la terre. Donc c'est un homme posé, paisible, qui sait suivre la nature, il marche à pas lent. Dans ce petit roman, il y a quelques personnages, mais lui, c'est le plus sage, c'est lui qui a très mal de voir que tout ce qu'il a aidé à se construire peut disparaître. Et il aurait voulu transmettre à ses enfants donc cette richesse qu'il avait autour de lui. Mais il est posé, sage. Il me rappelle un petit peu quand je regarde ce que j'ai écrit, parce que parfois, il ne me semble même plus que c'est moi qui l'ai écrit, dans la mesure où, une fois que le livre est sorti, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme l'accouchement. Il n'est plus à vous. Il est là. Et finalement, ce Giurgos me rappelle aussi mon grand-père, qui était un homme grand, posé, modéré, qui marchait à pas lents. Et après avoir écrit, je me suis rendu compte qu'il lui ressemblait. Mais il ressemble aussi à beaucoup de personnages que j'ai rencontrés dans mes pérégrinations sur les petits chemins de Grèce.
Françoise Tignol-Blanc, votre amour pour la terre de Grèce se lit à chaque page, aussi bien pour la Grèce moderne que pour la Grèce antique. Mais avant d'en parler un peu plus, j'aimerais peut-être que nous écoutions un deuxième morceau de musique que vous avez choisi et qui vous semble être à l'image même de la Grèce que vous aimez.
Oui, j'ai hâte de réécouter ce passage. Une voix d'homme, très rock, douce et rock à la fois, pleine de sagesse, de modération. Les femmes en Grèce ont une voix assez criarde. Les hommes sont plus sages. Vous savez que l'art de la parole est né en Grèce. L'éloquence est née là-bas avec Socrate qui parlait sans arrêt sur l'agora, qui interrogeait les gens. Donc l'art de la parole. Les Grecs sont capables de passer des heures et des heures dans des cafés néons, dont j'en ai parlé dans mon texte, les cafés, des heures à parler, politique surtout, essentiellement politique. Voilà. Non pas pour changer le monde, mais pour l'art d'approfondir, de connaître l'autre. Voilà. Et cet homme, cette voix d'homme, je l'aime beaucoup.
Donc nous allons entendre un passage d'un morceau que vous avez choisi.
Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε.
Parole d'auteur Anne Lasserre.
Françoise Tignol-Blanc, dans la déchirure d'Argos, donc, on voit que la Grèce antique, la Grèce moderne sont intimement mêlées. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a un autre passage dont je voudrais vous parler. C'est quand vous écrivez que être adulte, c'est être conscient que l'on est des dieux à chaque fois que l'on possède une richesse. Mais c'est aussi savoir que cette richesse n'est rien. Alors j'aimerais savoir si c'est vraiment ainsi que vous définissez le passage à l'âge adulte.
Oui, je pense que pour ma part, hein, personnellement, dans ma vie personnelle, donc, et pour ma sœur jumelle, je pense qu'il en est de même, ce passage à l'âge adulte s'est fait brutalement. Et je voudrais lire justement le passage dans le texte où le fils de Giorgos se rend compte que finalement, la vie qu'il avait avant, c'est terminé. Il ne pourra plus revoir le paysage qui l'entourait comme avant. Parce qu'il a compris, il a 15 ans, il a l'âge finalement que j'avais lorsque mon grand-père est mort. Et il a compris que plus rien ne serait comme avant, qu'il fallait sans arrêt se battre pour reconstruire ce monde qu'il a perdu. Les visages silencieux ont quelque chose de tragique. Comme en attente, comme si tous buvaient chaque minute, tel un dernier présent. Comme si cette heure vécue ensemble devait être la dernière. Et Gerasimos s'est approché de son père et lui a posé délicatement les deux mains sur les épaules. Leurs regards se sont croisés, tout était dit, sans qu'aucun mot ne vienne ternir cette lourde communion silencieuse. Gerasimos a 17 ans, c'est le dernier fils de Giorgos. Adolescent un peu frivole, il vient de sentir ce soir sur sa peau nue, sur sa peau mate, la sourde déchirure, celle qui pénètre au fond du cœur et qui fait mal. Il vient de comprendre qu'il ne sera plus jamais l'enfant d'hier. Un trouble indicible s'est glissé en lui. Pourquoi ? Est-ce cela être adulte ? Le silence de son père le signifie que oui. C'est vivre avec la peur. C'est, à chaque détour du chemin, cueillir la moindre lumière comme un fruit éphémère. Apprendre à écouter la nuit et la mer comme si elles devaient mourir demain. Comme si, un jour, la folle démesure allait nous les reprendre. Être adulte, c'est être conscient que l'on est des dieux à chaque fois que l'on possède une richesse, mais c'est aussi savoir que cette richesse n'est rien. C'est intolérable.
C'est une très belle définition. de l'âge adulte, du fait de devenir adulte. Alors, vous parlez de la démesure, et on retrouve donc bien sûr cette démesure dans les textes grecs de l'Antiquité. Mais il y a une autre notion qui est généralement aussi dans les textes de grecs, c'est la notion de faute.
Oui.
Et ce qui m'a frappée, Françoise, c'est qu'on retrouve même la notion de faute dans votre,
oui.
dans la déchirure d'Argos, comme on la trouve dans les textes antiques.
Oui, alors je me souviens de plusieurs auteurs, notamment Euripide qui en parle souvent, mais Platon en parlait aussi. Les Grecs pensent que les dieux n'aiment pas que les hommes arrivent à leur niveau. C'est-à-dire que si on monte trop haut, pensons à Hector, je pense plutôt à Achille, Agamemnon qui était Mnestre, Oedipe, quand on est presque des dieux sur Terre et qu'on a tout et que le bonheur est là, les dieux n'aiment pas, ils sont jaloux du bonheur des hommes. Donc, automatiquement, on disait qu'il fallait rester dans le juste milieu, parce que si on montait trop haut, on risquait de descendre très bas. Vous voyez, c'était un genre de balance. Une vie d'homme devait être mesurée. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, on aurait tous à peu près le même nombre de joies, le même nombre de malheurs. Sinon, ceux qui ont un très grand bonheur risquent de le payer très fort. Et cette idée de payer très cher un bonheur fou, je la retrouve souvent en Grèce, et mes personnages aussi en ont conscience. Ça nous oblige à ne pas trop nous emballer pour certaines choses, mais c'est frustrant aussi parce que les grands bonheurs, on les prend, mais après, oulala, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver.
Bon, il y a comme finalement une épée de Damoclès,
oui.
sur la tête de
Oui, oui.
De
Alors
chacun.
La faute, à un moment donné, je le dis, je ne le retrouve pas le passage là, mais leur seule faute, c'est d'être grec. Hein, je voudrais retrouver le passage, c'est-à-dire d'avoir, peut-être avait-il trop de bonheur sous les
c'est
yeux.
C'est page 11,
page 11,
au bas de la page 11.
Page 11.
L'avant-dernier paragraphe.
Leur seule faute, c'était de croire à aujourd'hui. Parce que autrefois, l'homme voyait dans les séismes, les cataclysmes, un signe des dieux. Une leçon de modestie devait être tirée des terribles éruptions. On se souvient de Pompéi, de cet effroyable anéantissement où les riches Romains subirent en quelques heures la punition indélébile de leurs orgies, de leurs folies. Mais là, aujourd'hui, sous ce ciel calme d'Argos, de quelle faute devait-on punir les hommes ? Leur seule faute, c'était de croire à aujourd'hui. De croire comme Dimitris, au soleil qui va naître, aux olives qui vont mûrir, à la pluie qui va se faire rare dans toute l'Argolide dès le mois de juin. Leur seule faute, c'était d'oser encore s'émerveiller, attachés qu'ils étaient à tout un passé de pierres et d'images, blottis au creux des sites inondés de lumière. C'est peut-être pour cela que l'absurde est venu. La vie n'aime pas les grandes certitudes. Il faut les taire, les étouffer, les écraser. Ces grandes certitudes, aujourd'hui, ce sont ces villageois modestes, avec leurs coutumes vieillottes et troublantes, leurs joies faites de grands silences et leurs médailles dorées et argentées qui ornent leur demeure.
Oui, c'est véritablement un long poème en prose que vous avez écrit, Françoise, car pour moi, votre écriture est très, très, très poétique. Et d'ailleurs, elle est sous forme de petits paragraphes,
oui.
qui pourraient être autant de strophes.
Oui.
Et donc, vous nous présentez la vie et la terre comme des cadeaux.
Cadeaux.
Mais des cadeaux fragiles,
fragiles.
Des cadeaux
voilà.
éphémères.
Voilà.
On le voit à travers le cauchemar, justement, de Giurgos.
Oui. oui. Cadeaux fragiles, mais dont il faut prendre conscience. Et je n'ai pris conscience personnellement de ces cadeaux qu'après la déchirure vécue dans mon enfance. Et l'arrivée en Grèce m'a permis ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de résilience. On en parle beaucoup en ce moment. C'est-à-dire, j'étais triste, pour ne pas dire, vraiment très triste, perdue. Et finalement, l'arrivée sur cette terre grecque, avec tous ces souvenirs, ces vestiges, des panneaux, Olympie 30 km, Épidaure 15, tous ces vestiges du passé qui remontent à 5 siècles avant Jésus-Christ, m'ont rassurée. C'est vrai que la Grèce, elle me rassure. Les petites chapelles dispersées dans la campagne, la moindre petite île, même s'il n'y a pas un seul habitant, vous avez une petite chapelle construite dessus. Comme si les Grecs voulaient remercier Dieu. Et c'est sûr que je ne m'en suis pas rendu compte quand je l'ai écrit, mon livre, mais beaucoup de gens me disent que je parle beaucoup de la religion. C'est vrai, quand je le relis, j'en suis consciente, mais c'est à moi, c'est comme ça. Est-ce que c'est la religion traditionnelle? Je ne pense pas. C'est peut-être une forme de superstition aussi. Et les Grecs sont aussi très superstitieux, et je le suis aussi.
Et justement, alors, il y a un personnage, une jeune Française qui arrive un peu comme vous sur cette terre grecque et qui fait son entrée vers la fin du récit. Et justement, on a l'impression que malgré tout ce qui se passe, le séisme, l'acte terroriste, elle va retrouver une certaine sérénité. Je crois qu'elle arrive à peu près vers la page 40.
Oui.
Et elle s'appelle Suzanne, si mes souvenirs sont bons. Et vous parlez même, dans le deuxième paragraphe, d'un court-circuit étrange du destin.
Oui.
Sur ce même port de Kalamata.
Voilà, ce personnage. Alors, vers la fin du livre, il y a, je pense que c'était en 2004, hein, il y a eu un terrible séisme à nouveau à Kalamata, dans le sud du Péloponnèse, alors, avec des centaines de morts, il faut le dire. Bon, on l'a oublié aujourd'hui, mais enfin, ça a été terrible. Les gens ont perdu leur maison, tout. Et Kalamata est au bord de la mer également. Et j'ai imaginé ce personnage perdu, elle aussi. Je pense qu'elle me ressemble beaucoup, d'ailleurs. Et qui arrive sur le port de Kalamata, à l'instant même où les Grecs sont complètement perdus, puisqu'ils ont perdu leur maison, leur travail, enfin tout ce qui s'ensuit quand une catastrophe arrive. Et cette jeune femme, donc, redécouvre l'amour de la vie, de se battre pour un peuple, de se battre pour aider, pour être à côté d'eux dans cette souffrance, parce qu'elle l'a connue, cette souffrance. C'était pas la même, c'était pas une souffrance physique, disons matérielle, mais morale. Et donc je pense que ce voyage de Suzanne, alors Suzanne, j'ai choisi ce prénom par hommage à ma mère, puisque ma maman s'appelait Suzanne, donc elle représente beaucoup, beaucoup de moi, beaucoup de cette force de vie qui veut continuer malgré tout. Et en France, si j'étais restée en France, je n'aurais pas pu retrouver cette force de vie. Ce qui m'a aidée à la retrouver, je me rends compte, c'est la Grèce. Parce que justement, il y avait une impression d'éternité. Là-bas, on n'a pas l'impression que le temps s'arrête. C'est une impression que la vie est toujours là, qu'elle sera toujours là. Et cette confiance dans la vie, dans les choses, m'a aidée. Même si les gens sont malheureux autour de moi, même si moi, personnellement, je le suis, se battre pour sauver ce monde qui dure depuis des milliers d'années, c'était le but de ma vie. Voilà. Et le mot, pour moi, d'ailleurs, poiema en grec, ça vient du verbe poieo, qui veut dire « je fais ». Le poème, pour les Grecs, c'est une création. C'est la recréation du monde. Avec les mots, on recrée le monde pour pas qu'il se perde. Et souvent, quand j'ai écrit ce texte, j'ai pensé aussi au musée en Irak, pendant la guerre terrible. Les statues massacrées en Irak et en Syrie, tout ce qui a pu se passer. Voilà, briser les statues, briser les souvenirs, les vestiges, briser toutes les traces des hommes, ça me fait très mal. C'est pour ça que j'ai écrire pour sauver ce monde, au cas où un jour il n'existerait plus.
Justement, il y a deux choses qui m'intéressent beaucoup dans ce que vous venez de dire, Françoise. C'est cette relation au temps qui apparaît tout à fait différente en Grèce. Et d'ailleurs, vous venez un petit peu de nous en parler. Et vous écrivez à un moment qu'un instant a valeur d'éternité en Grèce. Et il y a autre chose, vous avez évoqué ces statues. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans votre ouvrage. Aussi, quand vous dites que les statues, malgré tout, gardent leur beauté sereine. Oui. Quoi qu'il arrive aux hommes, quoi qu'il arrive voilà. À la terre.
Voilà. Quand on visite les musées, le musée national archéologique d'Athènes, par exemple, le musée de l'Acropole, qui est ultra-moderne, qui vient d'être fini pour les Jeux olympiques, on est frappé par cette beauté plastique, magnifique. C'est Phidias. Enfin, les plus grands auteurs de la statuaire grecque, hein, ont créé des statues. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les hommes de l'époque étaient aussi beaux? C'est, peut-être, on ne sait pas. Est-ce que c'est une image de l'homme idéal, tel qu'on le voudrait? Je pense plutôt à ça. C'est-à-dire qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était l'apogée de la civilisation grecque. Et l'homme avait l'impression d'être arrivé au bout de la civilisation. Il avait inventé la philosophie, il avait inventé l'art oratoire, la tragédie, la comédie, la poésie, l'architecture. Donc, l'homme est dans sa plénitude. Et les statues, elles ont toujours l'air d'avoir un petit air, pas ironique, mais un peu comme si elles se détachaient des hommes, un peu comme si elles étaient insouciantes et que le tracas des hommes ne les touche pas. Et c'est ce qui me rassure aussi, de les voir aussi belles, même après tant d'années, c'est ce qui me rassure. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Je me souviens qu'au Musée national d'Athènes, une fois, il y a une dizaine d'années, il y avait toute une salle qui était en réfection. Et pour faire la peinture à nouveau dans cette pièce, ils avaient mis sous des bâches de plastique toutes les statues magnifiques qui pouvaient s'y trouver. Et ça m'a interpellée, je me suis arrêtée, j'ai pris un stylo, un papier, et j'ai commencé à écrire, comme si les statues avaient envie de me parler, et même si elles étaient cachées. On allait les sauver, et ça me rassure de savoir qu'on peut les sauver.
Là aussi, c'est un très beau témoignage, Françoise. Alors, je crois que nous allons maintenant entendre le troisième morceau de musique que vous avez souhaité nous faire écouter. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots rapidement pour expliquer
alors,
ce choix?
Oui, ce choix, c'est une musique de Sfakianakis. C'est la musique du film qui est sorti il y a quelques années, trois ou quatre ans par là, qui s'appelait Les 300. Les 300, ça fait allusion aux 300 Spartiates qui ont lutté pendant la guerre du Péloponnèse. Et c'est la musique de la révolte, d'un peuple qui ne se laissera pas mourir, même si il y a eu des tragédies énormes. Mais c'est un film pour un peu glorifier l'âme grecque, la force de l'homme, qui croit toujours à la beauté, qui croit toujours... Voyez, nous, en politique, en France, on s'accroche, je ne veux pas être vulgaire, mais on s'étripe presque quand on parle politique. Les Grecs, non. Les Grecs, ils sont capables de vous parler pendant des heures, et ils y croient encore, ils vont... Bon, mais disons que c'est différent, voilà, c'est différent.
Bon, alors nous allons écouter
ce troisième morceau,
Françoise.
Χρόνια με χτυπάτε, χρόνια στέκομαι. Χρόνια με πουλάτε και τα νέχομαι. Χρόνια ο σκοπός σας να φανιστώ. Έλληνας χαμένο. Πρόγραμμα βατό, Έλληνας θαμμένος, χι χωρίς Θεό. Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω, υπήρξα άρχοντας στον κόσμο απάνω. Είμαι αυτός που σου έχει μάθει τ' αλφαβητάριο μη κάνεις λάθη. Εγώ σε γέννησα, σε έχω ανατρέψει κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει. Μα εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης, άνθρωπος δίκαιος και δημοκράτης.
Parole d'auteur, Anne Lasserre.
Oui. Après ce troisième morceau de musique, Françoise Tignol-Blanc, je crois que vous voulez nous préciser quelque chose concernant justement la crise grecque.
Voilà, j'ai choisi ce texte parce que le titre cette musique, de cette chanson, c'est « Ego ma ime Lenas », « Moi, je suis grec ». Vous voyez, c'est comme si on voulait affirmer. Alors, ce titre me fait penser beaucoup à la crise grecque qui s'est imposée donc, depuis 2008. Hein, vous le savez, tout le monde le sait, de toute façon. La Grèce a voulu rentrer fait dans l'Europe, et ce serait impensable qu'elle n'y soit pas, puisque le mot même « Europe » est né en Grèce. Hein. Donc, mais quand la Grèce est rentrée dans l'Europe économique, elle n'avait pas le niveau, tout le monde le savait. Mais c'est triste à dire, les Grecs ont subi la crise de plein fouet, on leur a baissé les salaires trois fois dans l'année pratiquement, les retraites n'en parlons pas, et tous les Grecs se sont retrouvés soit dans la rue, soit à revivre chez les parents ou même les grands-parents. Souvent, vous avez trois ou quatre générations qui vivent dans le même appartement. Et je me souviens d'un événement terrible dont on n'a pas parlé à la télévision française, parce que parfois, il faut cacher les choses. Il y a sept ans, par là, il y a un pharmacien d'Athènes qui s'est immolé sur la place Syntagma, en pleine crise grecque, parce qu'il ne pouvait plus offrir la chimiothérapie, les produits de chimiothérapie, à des gens qui avaient le cancer. Et sur la place Syntagma d'Athènes, qui est la place de la Constitution, et le cœur même d'Athènes, il y a encore, de temps en temps, un monsieur qui a une grande pancarte au-dessus de lui avec un cerveau. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Finalement, il n'a pas, lui aussi, il a un cancer de la tête et il ne peut pas se payer la chimiothérapie. Nous n'avons pas en Grèce la sécurité sociale que nous avons en France. Et avec cette crise qui est arrivée, même les médicaments n'arrivaient plus. C'était terrible, hein, terrible ce qu'ont vécu les Grecs. C'est pour ça que cette voix d'homme, moi je suis grecque, c'est pour leur donner la fierté de leur peuple, de tout ce qu'ils ont fait depuis l'éternité. Et je suis très proche d'eux. Voilà.
Oui. Justement, je crois que vous avez envie de donner une suite à la déchirure d'Argos et peut-être inspirée par une partie de ces événements, non ?
Voilà. Depuis que j'ai fini ce petit livre, c'est vrai que la crise grecque est venue et que chaque fois que j'y vais, parce que j'ai un petit studio là-bas, j'y vais souvent, je partage mon temps entre la France et Athènes, mais je préfère Athènes, finalement. Et donc, depuis que cet événement est survenu et que je commence à connaître mieux les gens, les familles, les soucis des familles, j'ai imaginé mes personnages, les mêmes personnages, dans la crise grecque. Comment font-ils pour survivre, en gardant toujours cet esprit d'émerveillement, parfois, sur la nature qui les entoure, sur leur passé. Et je suis en train d'y travailler. En face de ma maison, il y a une montagne qui s'appelle le Lycabette. Tous ceux qui sont allés à Athènes le connaissent. En face du Parthénon, vous avez la montagne du Lycabette. Le Lycabette, ça veut dire la montagne des loups. La montagne, parce que dans l'Antiquité, il paraît que Athènes s'arrêtait là, c'était la fin, et que les loups arrivaient du nord de la Grèce jusque dans cette montagne. Et bon, ce titre m'est passé dans mon esprit, et je crois qu'avec ce mot Lycabette, quelque chose va naître. Bon, j'en suis là pour l'instant, mais je pense qu'il y aura une suite. Voilà. Je pense qu'il y aura une suite.
Moi, j'en suis persuadée qu'il y aura une suite. Donc, vous vivez, comme vous l'avez dit, une partie de l'année en Grèce. Et est-ce vraiment, vraiment une terre particulière, comme vous l'écrivez ?
Oui, j'ai vécu longtemps, vous voyez, en Corse. J'étais professeure longtemps à Bastia. J'aime la Corse, j'ai adoré la Corse aussi, mais elle est plus violente. La Corse, c'est un rocher dans la mer, c'est très dur. Et les gens, les Corses, que j'ai fréquentés pendant 15 ans quand même, je les connais, donc sont des personnages, surtout les hommes, bien trempés, très durs. La Grèce, c'est très vallonné, c'est très doux, c'est des collines, des coquelicots en avril, les champs de blé, les champs de coton aussi dans le nord de la Grèce. Puis, tout d'un coup, un temple, une église. C'est très doux, les paysages sont très doux et les gens qui y vivent sont aussi très doux. J'avais lu un très beau livre qui disait que les paysages engendrent les gens qui vivent dans ce paysage. Et c'est vrai, je pense que la Corse a engendré les Corses et qui sont assortis à leur paysage, à leur rocher qui plombe droit, par exemple dans le golfe de Porto, ça tombe dru dans la mer. Et les Grecs, c'est beaucoup plus doux, ils chantent, même malheureux, ils continuent à chanter dans les cafés le soir. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces voix d'hommes, parce qu'on continue, même malheureux, à danser, à chanter des chants plutôt lancinants, mélancoliques, mais on ne perd pas sa joie de vivre.
Oui, il y a quand même beaucoup de mélancolie, de nostalgie
oui,
dans
beaucoup,
ces
beaucoup de
chants
mélancolie.
Grecs.
Voilà, beaucoup. Les femmes comme les hommes ont des voix très, très profondes, beaucoup de mélancolie, mais ils continuent à chanter. J'étais effarée parfois de voir que même en pleine crise grecque, près du Parthénon, à Plaka ou autre, il y avait des gens quand même avec des bouzoukis qui continuaient à chanter. Nous, les Français, je pense qu'on en est incapables. Hein. Nous, on serait dans la rue avec des banderoles. Non, non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil.
Bon, c'est-à-dire, au fond, que même si l'absurde surgit quand toutes les certitudes sont balayées, il y a quand même en Grèce une force dans l'âme des
force,
gens, dans le cœur des gens,
je pense
qui fait
voilà.
Que...
Ils sont très forts pour subir ce qu'ils appellent la fatalité. Vous savez, la majorité des Grecs sont orthodoxes. Hein. La religion là-bas, c'est orthodoxe. D'ailleurs, sur le drapeau grec, vous avez la croix. Hein. L'Église n'est pas séparée de l'État. Ils acceptent beaucoup de choses que nous n'accepterions pas. Comme si c'était écrit.
Oui.
Comme si c'était écrit. L'idée de fatalité. Mais ils sont là.
Alors, Françoise Tignol-Blanc, vous écouterez encore longtemps, parce que c'est un ouvrage intemporel que vous avez écrit, qui a la force du mythe. Peut-être déjà parce que le récit se déroule sur la terre de Grèce, mais aussi par votre style. Votre écriture, comme je l'ai dit et je le répète, est proche de la poésie et même de la poésie épique. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais un mot de trop. Et chaque mot a son importance dans la déchirure d'Argos. Aussi, Françoise, je vous remercie d'avoir accepté de venir parler de la déchirure d'Argos, ouvrage, je le rappelle aussi, publié par les éditions Lucane.
Je vous remercie beaucoup, Anne, de m'avoir reçue. C'est toujours un plaisir de parler de ce livre. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il est là, c'est le fruit de tant d'années, mais il ne m'appartient plus. J'espère qu'il apportera beaucoup de sérénité à tous ceux qui le liront.
J'en suis persuadée. Au revoir, Françoise Tignol-Blanc.
Merci.